Madame Guillon, Les torrents spirituels, chapitre 2e. Voie active de la méditation. Les premières âmes sont celles qui, après leur conversion, s'adonnent à la méditation ou aux œuvres mêmes de charité. Elles font quelque austérité extérieure. Enfin, elles tâchent peu à peu de se purifier, d'essuyer certains péchés notables et même des véniels volontaires. Elles travaillent selon leurs petites forces à avancer peu à peu, mais faiblement et petitement. Comme leur source n'est pas abondante, la sécheresse les fait quasi tarir. Il y a des endroits même, dans les temps d'aridité, où elles se dessèchent tout à fait. Elles ne laissent pas de couler de la source, mais c'est si faiblement qu'à peine s'en aperçoit-on. Ces rivières ne portent point ou peu de marchandises, et si, pour le besoin du public, il faut leur en faire porter, il faut en même temps que l'art suppléer à la nature et trouver le moyen de les grossir, ou par la décharge de quelques étangs, ou par le secours de quelques autres rivières de même espèce, que l'on joint et unit à elles, lesquelles rivières, jointes ensemble, augmentent l'eau et, se secourant les unes les autres, se mettent en état de porter quelques petits bateaux, non dans la mer, mais dans quelques-unes de ces maîtresses rivières dont nous parlerons ci-après. Ces âmes-ci sont ordinairement peu appliquées au-dedans. Elles travaillent au-dehors et ne sortent guère de la méditation. Aussi ne sont-elles pas propres à de grandes choses. Elles ne portent point pour l'ordinaire de marchandises. Cela veut dire qu'elles n'ont rien pour les autres. Et Dieu ne se sert ordinairement de ces âmes, si ce n'est pour porter quelques petits bateaux, c'est-à-dire pour quelques œuvres de miséricorde corporelle. Encore pour s'en servir, il leur faut décharger des étangs, des grâces sensibles, ou les unir à quelques autres dans la religion, où plusieurs, d'une grâce médiocre, ne laissent pas de porter un petit bateau, non dans la mer même, qui est Dieu, où elles n'entrent jamais dans cette vie, mais bien dans l'autre. Ce n'est pas que ces âmes ne se sanctifient pas par cette voie. Il y a même quantité de bonnes âmes qui passent pour très vertueuses qui ne la passent pas, Dieu leur donnant des lumières conformes à leur état, et qui sont quelquefois très belles et font l'admiration des spirituels ordinaires. Il y a même quelques-unes de ces âmes qui, à la fin de leur vie, reçoivent quelques lumières passives, selon la fidélité qu'elles ont eue dans leur voie. Mais pour l'ordinaire, elles ne sortent point d'elles-mêmes. Toute leur grâce et leur lumière étant d'une manière créée, je veux dire proportionnée à leur capacité, sont distinguées, aperçues et accompagnées de ferveur. Et plus ces mêmes lumières sont distinguées, aperçues et accompagnées de ferveur, plus elles s'y attachent et ne trouvent rien de plus grand en cette vie. Les plus favorisées de ces âmes pratiquent la vertu avec beaucoup de générosité. Elles ont 1000 inventions saintes et 1000 pratiques pour se porter à Dieu et pour demeurer en sa présence. Le tout, cependant, se fait par leurs propres efforts, aidés et secourus de la grâce. Mais dans ces âmes, leur opéré paraît excéder celui de Dieu, et celui de Dieu ne fait que concourir avec le leur. Je crois que qui voudrait porter ses âmes à une raison plus élevée n'y réussirait pas pour plusieurs raisons. La première est que, comme ces âmes n'ont rien de surnaturel, si vous leur ôtez leur travail, vous empêchez le cours des grâces. Semblable à ces pompes qui ne donnent de l'eau qu'à mesure qu'elles sont agitées. Vous remarquerez même, en ces âmes, une grande facilité à raisonner, à céder de leur puissance, une activité toujours vigoureuse et forte, un désir de faire toujours quelque chose de plus et de nouveau pour se perfectionner, et dans les sécheresses, une anxiété pour s'en défaire, aussi bien que de leurs défauts. Ces âmes ont beaucoup de hauts et bas. Tantôt elles font merveille, d'autres fois elles languissent et rampent. et ils n'ont jamais une conduite unie. D'autant que le principal de leur raison étant dans les puissances, lorsque ces puissances sont desséchées, soit faute de travail de leur part, soit faute de correspondance de la part de Dieu, elles tombent dans le découragement, ou bien elles s'accablent d'austérité et d'efforts pour retrouver par elles-mêmes ce qu'elles ont perdu. Elles n'ont jamais, comme les autres âmes, une profonde paix, ni le calme dans leurs distractions. Au contraire, elles sont toujours alertes pour les combattre ou pour s'en plaindre. Elles sont, pour l'ordinaire, scrupuleuses, entortillées dans leur voie, à moins qu'elles n'aient l'esprit d'une force assez raisonnable. Il ne faut donc pas porter ces âmes à l'oraison passive, car ce serait les ruiner, sans ressources, leur ôtant les moyens d'avancer vers Dieu. Car comme une personne qui serait obligée de voyager, et qui n'aurait ni bateau ni carrosse, ni aucune autre voie que celle d'aller à pied, si vous lui ôtiez les pieds, vous la mettriez hors d'état d'avancer. De même, ces âmes, si vous leur ôtiez leur opéré, qui est leur pied, elles n'avanceraient jamais. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui les contestations qui arrivent parmi les personnes de raison. Celles qui sont dans la passive, connaissant le bien qui leur en revient, et voudraient faire marcher tout le monde. Les autres, au contraire, qui sont dans la méditation, voudraient borner tout le monde à leur voie, ce qui serait une perte et un dommage qui ne se peut dire. Que faut-il donc faire? Il faut prendre le milieu et voir si les âmes sont propres à une voie ou à l'autre. Le directeur expérimenté le pourra connaître par l'opposition qu'elles ont à demeurer en repos et à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, par un fourmillement de fautes et de défauts dans lesquels elles tombent sans quasi les voir ou les connaître. Aussi ce sont des personnes d'une sagesse et prudence humaine, par une certaine adresse à couvrir et à elles et aux autres leurs défauts, par une attache à leurs sentiments et par quantité de fautes que l'on ne peut expliquer et que le directeur expérimenté connaîtra. Les faut-il donc laisser toute leur vie dans le raisonnement? Je crois que si elles sont assez heureuses que de trouver un directeur habile, il ne laissera pas de les faire bien plus avancer, et un nombre infini d'âmes qui ne croient être propres que pour la méditation arriverait à la perfection la plus consommée si elle trouvait un directeur avancé, et tant s'en faut qu'un directeur de grâce leur nuise. Il leur servira infiniment, les faisant marcher selon toute l'étendue que Dieu veut d'elles, ne prévenant pas la grâce ni ne différant pas de la suivre, mais la secondant et y faisant correspondre, au lieu qu'un directeur d'une grâce commune arrête les âmes, empêche qu'elles n'avancent et se les approprie. Le directeur expérimenté portera donc ces âmes-ci à faire moins de raisonnement et plus d'affection. Il les dénuera peu à peu de leur raisonnement, y substituant les bonnes affections en la place. Et s'il voit ces âmes peu à peu se simplifier et goûter plus l'affection que le raisonnement tarissant peu à peu, c'est une marque qu'il y a quelque chose à faire dans ces âmes pour le spirituel. Il faut remarquer cependant que si le raisonnement tarissait par la faiblesse du sujet, et que ces âmes se sentissent portées non à aimer, mais seulement à ne rien faire par une stupidité et fainéantise, il faut les porter à s'exercer. Si elles ne le peuvent pas par l'entendement, du moins par l'affection et la volonté, car les âmes qui commencent à se dessécher par grâce ne sont pas plus imparfaites plus elles se dessèchent. Au contraire, elles ont un instinct de se poursuivre elles-mêmes pour se combattre et de poursuivre la lumière pour la retrouver et la suivre. Il faut donc les aider et les porter, non à se dénuer, mais à se remplir plus la volonté que l'entendement. Il ne faut pas les porter à se reposer, mais à courir de toutes leurs forces, selon leur petit pouvoir, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de soulager leur travail et leur marché, par quelques voitures, ou plutôt, suivant ma première comparaison, jusqu'à ce que ces petites rivières faibles trouvent le fleuve ou la grande rivière, qui les reçoit dans son sein et les porte dans la mer. Je ne sais pas pourquoi l'on crie si fort contre les livres spirituels et les personnes qui écrivent et parlent des voix intérieures. Je soutiens que cela ne peut nuire, si ce n'est à quelques âmes qui veulent se perdre pour leur plaisir, à qui non seulement ces choses nuisent, mais tout le reste, semblable aux araignées qui convertissent les fleurs en venin. Mais aux âmes humbles et désireuses de leur perfection, cela ne leur peut nuire, d'autant qu'il est impossible qu'une âme puisse les comprendre et en faire usage si le don ne lui en est donné. Et quelques lectures qu'elles puissent faire, elles ne peuvent se figurer les états qui, étant surnaturels, ne peuvent tomber sous l'imagination, mais bien sous l'expérience. Et de plus, quand la personne voudrait se tromper elle-même et se servir des termes qu'elle aurait lus, le directeur habile, dans les interrogations qu'il lui ferait, verrait bien la tromperie. De plus, l'état d'une âme dans un degré en suppose toutes les suites, et la perfection va d'un pas égal avec l'avancement intérieur. Ce n'est pas qu'il y a des âmes avancées dans leur raison, qui auront des défauts en apparence plus grands que des âmes communes, mais ils ne sont pas de même, ni quant à la nature, ni quant à la qualité. La seconde raison pourquoi je dis que ces livres ne peuvent faire de mal, c'est qu'ils portent avec soi tant de morts, de détachements, tant de choses à vaincre et à détruire, que l'âme n'aurait jamais assez de force pour l'entreprendre si son intérieur n'est vrai. Et quand même elle l'entreprendrait, elle aurait par ses seules pratiques l'effet de la méditation, qui n'est que de travailler à se détruire. Toute la différence est que l'âme n'agirait pas par un principe divin, mais seulement vertueux, ce que le directeur expérimenté découvrirait. C'est pourquoi une âme ne doit jamais se conduire elle-même, ni craindre d'avoir un directeur trop éclairé. C'est se vouloir tromper soi-même que d'en vouloir chercher un autre, et par une lâcheté de courage, vouloir borner l'Esprit de Dieu en bornant sa perfection à telle ou telle chose. Ce que je conclus de cela, c'est qu'il faut toujours choisir le directeur le plus spirituel, qui, en quelque degré que l'on soit, servira, et que Dieu vous accordera, ô vous, qui n'espérez rien de surnaturel, par cet homme qui lui est cher, ce qu'il ne vous accorderait pas à vous-même. Mais pour ce directeur qui s'approprie les âmes, qui les veulent conduire à leur mode et non à celle de Dieu, qui veulent donner des bornes à ses grâces et poser des limites pour les empêcher d'avancer, pour ces directeurs, dis-je, qui ne connaissent qu'une voie et qui veulent faire marcher tout le monde, les maux qu'ils font aux âmes sont sans remède, parce qu'ils les tiennent arrêtés tout le temps de leur vie à certaines choses qui empêchent Dieu de se communiquer infiniment. Quel compte ne leur faudra-t-il pas rendre de ces âmes? S'ils n'ont pas de lumière pour les conduire, que ne les laissent-ils aller à d'autres maîtres plus avancés? Ils devraient avoir assez de charité pour le leur conseiller eux-mêmes. Il me semble qu'il faudrait agir dans la vie spirituelle comme l'on fait dans l'école. On ne retient pas toujours les écoliers dans une même classe. On les fait passer dans d'autres plus élevés, et les maîtres de sixième et de cinquième ne s'ingèrent pas de montrer la philosophie. Ô sciences humaines, vous êtes si peu de choses, et l'on ne laisse pas de prendre tant de précautions. Ô sciences mystiques et divines, vous êtes si grandes et si nécessaires, et cependant on vous néglige, on vous borne, on vous contraint, on vous violente. Oh, n'y aura-t-il jamais une école de raison? Hélas, pour en avoir voulu faire une étude, on a tout gâté. On a voulu donner des règles et des mesures à l'Esprit de Dieu, qui est sans mesure. Il n'y a pas une âme qui ne soit capable de raison, et qui ne puisse et ne doive s'y appliquer. Les personnes les plus grossières et les plus stupides en sont capables. Je le sais par mon expérience, car certaines âmes s'étant adressées à moi, qui avait une incapacité quasi invincible pour l'oraison, et qui ne voulait pas s'y appliquer, et après s'y être appliqué, voulait tout quitter. Comme elles avaient bien de la confiance en moi, je les obligeais par une douce violence à continuer, malgré leur répugnance et le peu de profit qu'elles croyaient faire, car elles se croyaient tout à fait inutiles. Cependant, après plusieurs années de persévérance, elles sont arrivées à une très haute oraison infuse. Elles m'ont avoué elles-mêmes que si je n'avais tenu bon, elles auraient tout quitté et se seraient perdues. Cependant, si ces hommes avaient trouvé certains directeurs, ils n'auraient pas hésité de leur dire qu'après avoir passé 4 ou 5 années à faire de l'oraison, sans pouvoir ni méditer, ni être échauffée de l'amour de Dieu, ni sans être plus parfaite, c'était une marque que Dieu ne les y appelait pas. Ô pauvres âmes ainsi impuissantes, vous êtes plus propres à servir au dessein de Dieu, et si vous êtes fidèles, vous ferez mieux oraison que ces grands raisonneurs qui font plutôt une étude à l'oraison qu'une oraison. Je dis plus, ces pauvres âmes, qui paraissent si impuissantes et si incapables, sont très propres pour la contemplation, pourvu qu'elles ne se laissent point de frapper à la porte et d'attendre avec une humble patience qu'elle leur soit ouverte. Ces grands raisonneurs, ces entendements si féconds, qui ne sauraient demeurer un moment en silence devant Dieu, qui paraissent avoir une facilité admirable, qui ont un babil continuel, qui savent si bien rendre compte de leur oraison et de toutes ses parties, qui la font toujours comme il leur plaît et avec les mêmes méthodes, qui s'exercent comme ils veulent sur tous les sujets qu'ils se proposent, qui se contentent si fort d'eux-mêmes et de leur lumière, qui raffinent sur les préparations et méthodes d'oraison, n'y avanceront jamais guère, et après 10 ou 20 ans de cet exercice, seront toujours les mêmes. Ô mon Dieu, enseignera-t-on avec méthode à faire l'amour à l'amour même? Hélas, quand il est question d'aimer une misérable créature, se sert-on de méthode pour cela? Les plus ignorants en ce métier sont les plus habiles. Il en est de même, quoique bien différemment, de l'amour divin. C'est pourquoi, ô sage directeur, si une pauvre âme, qui n'a jamais fait oraison, s'adresse à vous pour apprendre à la faire, apprenez-lui à bien aimer Dieu et faites-la jeter à corps perdu dans l'amour, et elle sera bientôt maîtresse. Si c'est un naturel peu propre à aimer, qu'elle fasse de son mieux, et qu'elle attende en patience que l'amour même se fasse aimer à sa mode et non à la vôtre. Des sujets simples, courts, affectifs et peu raisonnés sont les meilleurs pour des commençants. Des vérités solides, lues et un peu digérées, hors de l'oraison, feront autant que la méditation. Mais faites-leur employer le temps de l'oraison à beaucoup aimer.